je vais vous parler de la trajectoire éditoriale de l'histoire de la France rurale, hein, qui a été publiée par les éditions du Seuil en quatre tomes, entre 1975 et 1977. Les deux premiers tomes en octobre 1975, le troisième au printemps 1976 et le dernier au printemps 1977. Alors, je dois d'emblée confesser mon incompétence dans le domaine de l'histoire rurale. Et donc mon intérêt pour cette espèce de monument historiographique qu'a été l'histoire de la France rurale se situe du point de vue de l'histoire de l'édition. Alors, le point préalable qu'il me faut fixer, c'est souligner l'intérêt de cet objet. J'ai parlé de monument éditorial. Alors, si on file un petit peu la métaphore, c'est vrai par les caractères matériel du livre, en quelque sorte, hein, plus de 2500 pages, 17 auteurs, et peut-être encore davantage, le monument, c'est ce qui dure, en quelque sorte, par ce que l'on reconnaît, donc pérennité et degré de reconnaissance. Alors, pour apprécier cette pérennité et ce degré de reconnaissance, il faut d'abord souligner la longue considération attachée au livre dans la communauté savante. Et de ce point de vue-là, il suffit de parcourir les notes des articles et des ouvrages spécialisés pour voir l'histoire de la France rurale régulièrement citée comme point d'appui d'une argumentation ou comme point de départ d'une remise en cause des thèses qu'elle contient. Mais c'est deux caractères qui finalement définissent ce qu'est un ouvrage de référence. Hein. On s'appuie dessus et on le conteste en même temps. Alors là, il suffirait de... Enfin, il y a eu un moment où ça a pu apparaître perturbant nettement, c'est en 2005, lorsque la question d'agrégation d'agrégation d'histoire a porté sur l'histoire rurale du 19e siècle, et où là, l'histoire de la France rurale, pourtant, qui avait 30 ans d'âge, eh bien, était très régulièrement, enfin, universellement citée. Alors il faut, quand je parlais de reconnaissance et de pérennité, ça ne concerne pas que le monde savant. On aurait une tendance, nous, évidemment, à voir avant tout des choses de ce point de vue-là. Ça concerne aussi un public élargi, et on le voit d'abord par le niveau des ventes. Ventes totales entre 1975 et 1992, je m'arrête à 1992 parce que là, il y a une édition de poche, mais pour la seule édition reliée, 267 000 et quelques centaines d'exemplaires pour les quatre tomes. Hein. Et pérennité aussi dans le fait que l'ouvrage est toujours disponible en librairie. Alors, toujours, vous pouvez toujours acheter neuf le tome 4 relié, et sinon, les quatre autres tomes sont en édition de poche. Là, on a bien des signes de considération et dans le temps. Il faut ajouter à cela que la diffusion globale est d'autant plus remarquable que l'ouvrage est cher. Il est vendu 120 francs le volume en 1975. Alors, si on essaie de convertir à partir du site de l'INSEE, bon, avec toutes les réserves d'usage qu'il faut faire, ça situerait les quatre tomes à presque 320 euros. Pour l'ensemble, donc l'ouvrage qui est quand même, ça représente une somme considérable. Alors, j'évoque ces aspects matériels, ces aspects sociaux aussi au niveau de la diffusion, pour bien souligner le fait que mon objet d'étude, ce qui est en cause ici, ce n'est pas un texte, c'est un livre. Texte sur lequel j'aurais beaucoup moins de choses à dire, et notamment parce qu'à cause de... je serais en difficulté pour en mesurer la valeur. Par contre, ce que j'essaie de saisir, en m'intéressant à un livre, c'est le travail de l'éditeur sur la circulation du livre, travail qui consiste notamment à anticiper un type de réception, à élaborer, à construire des dispositifs formels susceptibles d'y correspondre, avec plus ou moins de bonheur, évidemment, et à les adapter sans cesse au parcours du livre dans la société. Tout cela, travail effectué au sein d'une structure éditoriale déjà en place, d'une structure éditoriale donc qui a ses conventions, ses contraintes, ses opportunités et sa dynamique propre. Autrement dit, là, je vais simplement essayer d'appliquer des principes constitutifs de l'histoire de l'édition à un objet particulier qui est l'histoire de la France rurale. Quelques mots des sources. Dans cette perspective, évidemment, on va privilégier des sources internes. Et Bien évidemment, je me suis appuyé d'abord sur les fonds d'archives de l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine, donc de l'IMEC, et plus particulièrement, pas exclusivement, mais sur deux d'entre eux, un très grand massif archivistique qui est le fonds des éditions du Seuil, hein, plus de 3000 boîtes, ça doit faire 750 mètres linéaires d'archives, quelque chose comme ça. Et archives très riches, très bien classées, etc., et qui permettent notamment de saisir les échanges internes entre les responsables des différents domaines éditoriaux et les démarches d'élaboration, de construction des collections. Deuxième ressource importante, elle vient des archives personnelles de Georges Duby, alors fonds plus réduit, 130 cartons, quelque chose comme ça, mais ça fait déjà beaucoup de papier, qui ont été déposés par la veuve de Georges Duby à l'IMEC en 2003, et archives qui font l'objet d'un programme de recherche collectif impulsé par des collègues médiévistes, notamment Patrick Boucheron de Paris 1 et Jacques Dallarin du CNRS, Jacques Dallarin qui était un élève, un des disciples, on peut le dire, de Georges Duby, parcours auquel, dans lequel je me suis trouvé impliqué. Et dans ce fonds Duby figure une quinzaine de cartons dans lequel on va trouver une correspondance éditoriale remarquablement dense et suivie. Alors, donc voilà pour l'essentiel des sources internes. Il y aura quelques emprunts aussi au fonds Aubier-Montaigne, c'est beaucoup plus ponctuel. Et il faut le compléter, évidemment, le recouper avec des sources, disons, externes, notamment les comptes rendus de presse, de presse au sens large, y compris, bien sûr, de revues et de revues spécialisées, les catalogues des bibliothèques, etc. L'histoire du livre, hein, là, les grandes étapes du parcours du livre, y compris ce qu'on pourrait appeler sa préhistoire. Donc ça me donne un premier point sur les racines du projet éditorial. Alors, une sorte de préalable, c'est d'essayer de restituer le plus rapidement possible et le plus simplement le contexte éditorial. Répondre à la question où en est l'édition d'histoire à la fin des années 1960 ou au milieu des années 1960, lorsque le projet commence à émerger au sein des éditions du Seuil. Alors, c'est compliqué parce que il y a plusieurs pôles, évidemment, dans ce paysage éditorial de l'histoire, dans ces années, comme aujourd'hui, d'ailleurs. Et notamment, il faut souligner la réputation des grandes collections des PUF à cette époque-là, au milieu des années 1960, Clio, Peuple et Civilisation, et puis des grandes entreprises éditoriales collectives dans le domaine de l'histoire générale, alors justement sous le nom d'histoire générale, histoire générale des civilisations, notamment la plus connue de 1953-1957, mais également histoire générale des sciences, histoire générale des techniques, etc. Et cette histoire générale des civilisations de 1953-1957, si je m'appuie sur les chiffres que fournit Valérie Ténière, hein, qui a fait un ouvrage très dense et très important qui s'appelle Le Quadrige, justement sur l'histoire des PUF, enfin, la préhistoire des PUF, et puis jusqu'à la fin des années 1960. Et donc en 1967, point de comparaison intéressant avec l'histoire de la France rurale, 155 000 exemplaires vendus pour 7 tomes. Donc on voit, on est à un niveau de diffusion inférieur. Alors donc j'ai dit à partir de 1950, donc là sur une quinzaine d'années à peu près, c'est à peu près la plage de temps que j'avais pour les chiffres que j'avais donnés tout à l'heure. Alors, donc voilà pour les PUF, hein, je ne développe pas davantage. Et puis Armand Collin, il faut bien sûr rappeler l'importance du fait que Armand Collin est l'éditeur de Fernand Braudel, réédite du Lucien Febvre, édite Pierre Chaunu, donc un catalogue extrêmement prestigieux, hein, enfin déjà de très forte renommée. Et puis, bien sûr, Armand Collin est l'éditeur des annales et de la collection afférente qui sont les cahiers des annales. Alors, ceci dit, donc, PUF et Armand Collin, contestablement, en position de force, mais pas seul. D'autres grands éditeurs d'histoire, Albin Michel, avec vieille collection, enfin déjà ancienne, L'évolution de l'humanité, qui va justement passer en poche à la fin des années 1960, recherche là d'un public plus large, Hachette, avec La vie quotidienne, notamment depuis 1937, Aubier, avec la collection historique, hein, sous la direction de Lemerle, et Aubier qui va justement publier en 1962 L'économie rurale et la vie des campagnes dans l'Occident médiéval de Georges Duby. Georges Duby, évidemment, qui joue un rôle crucial dans cette histoire de la France rurale. On pourrait ajouter Gallimard. Alors Gallimard, à la fois avec de l'ancien, hein, il y a des collections de biographies, notamment Leur figure depuis 1927, La suite des temps depuis 1941, et puis des collections plus récentes, en particulier, pourtant la collection récente, mais avec un titre qui sent délicieusement la fin du 19e siècle, c'est 30 journées qui ont fait la France, qui est lancée en 1960. Fayard également, avec depuis 1930 les grandes études historiques, avec une particularité là, de Fayard à cette époque-là, c'est qu'il y a encore une très forte... une couleur politique, une sensibilité politique dans ce type d'histoire, et très clairement une couleur proche de l'Action française. Hein, le poids de Jacques Bainville ou de Pierre Gaxotte est très fort encore à ce moment-là. Mais avec des éléments de rénovation, puisque en 1954, c'est le lancement des grandes études contemporaines sous la direction d'un personnage qu'on n'a pas du tout situé dans le mouvement chemorassienne, puisque c'est Jacques Fauvet, qui sera après directeur du Monde. Donc, alors, là, voilà un peu pour, très rapidement, ce pôle savant de l'édition, et le pôle grand public, plus important au niveau, par définition, hein, au niveau diffusion, et là, l'importance, notamment d'un éditeur comme la librairie académique Perrin, avec une collection qui s'appelle « Présence de l'histoire », fondée en 1947, et où on retrouve Decaux, Castello, Erlanger. Évidemment, par rapport à l'histoire savante, là, il y a un décalage certain, mais la présence sociale de l'histoire passe par ce type d'éditeur aussi. Autre registre plus contemporain, les presses de la cité, avec une collection en 1955 qui s'appelle « Coup d'œil », et où on va retrouver notamment Raymond Cartier. Raymond Cartier, journaliste bien connu, c'est celui qui préférait la Corrèze aux Jambes. Alors l'impression générale, c'est celle d'un grand dynamisme de ce pôle historien de l'édition, ou ce pôle de l'édition historique. Grand dynamisme avec dimension d'expérimentation. Alors on le voit très nettement avec notamment la recherche d'un public diversifié, y compris chez des éditeurs qui ont une tradition très, très solide de s'adresser plutôt à un public érudit. Et là, il va y avoir des essais d'élargissement. Alors, dès 1959, Armand Collin a lancé la collection Kiosque, donc les faits, la presse, l'opinion, hein, bien connu également. Réponse de Gallimard en 1964, réponse, on peut dire, avec la collection Archives, hein, que lance Pierre Nora. Au Mercure de France, c'est Le Temps retrouvé, etc., qui publie beaucoup de sources, essentiellement des mémoires, d'ailleurs. Et disons que ce dynamisme-là est porté par de multiples facteurs, certains traditionnels ou réactivés, si on peut dire, l'importance ancienne des références historiques dans le débat public français, ça c'est une donnée fondamentale depuis au moins la période révolutionnaire, et avec des réinvestissements dans l'actualité française. Là, on est au milieu des années 60, on sort à peine de la guerre d'Algérie, il y a le retour de Gaulle qui est en soi une espèce de réémergence au premier plan de l'histoire dans toute sa profondeur. Donc il y a ces éléments-là, et puis il y a des éléments socio-culturels, si on peut dire, enfin sociologiques et culturels, et notamment la croissance du nombre d'étudiants, pour donner des chiffres très ronds, 200 000 étudiants en 1959, 700 000 une dizaine ou une douzaine d'années plus tard. Alors les grands éditeurs d'histoire y sont sensibles, puisque là on le voit comment, par exemple, Armand Collin va lancer entre 1963 et 1967 les quatre séries de sa collection U. Histoire. Même chose, les PUF lancent Nouvelle Clio en 1960, etc. Alors, dans tout ça, le seuil. Alors, dans ce panorama général, là, les éditions du seuil, on peut dire qu'on a une maison qui est en plein essor au milieu des années 1960, mais où l'histoire a une présence relativement discrète. L'histoire au seuil, au milieu des années 60, c'est essentiellement une collection de poches qui s'appelle « Le temps qui court », et au sein, d'ailleurs, d'un ensemble, d'un système de collection de poches qui s'appelle « Microcosme », et dans lequel on va trouver des collections qui s'appellent « Écrivain de toujours », donc c'est la littérature, « Petite planète », c'est la géographie, etc. Donc, collection de poches vendue, alors là, c'est des livres au bon marché, 8 francs en 1970. Alors, les archives du Seuil donnent d'importants éléments sur la dynamique de la collection. Elle a été lancée, cette collection, donc là je parle du temps qui court, je vais un tout petit peu donner quelques éléments, parce que c'est un des milieux dans lequel va naître le projet de l'histoire de la France rurale. Lancée en mars 1957, elle atteint 39 titres en une dizaine d'années plus tard, en 1967. La diffusion, je simplifie sur les chiffres, en moyenne par titre, on est au début des années 60 à 2700 exemplaires vendus par titre, et il y a un tassement ensuite, tassement qui s'explique parce que ces ouvrages de poche se vendent dans les premières années, et comme la collection se renouvelle peu à partir du milieu des années 60, eh bien il y a un tassement des ventes, on est à 1300 exemplaires vendus à peu près. Alors avec de gros écarts, hein, il y a des livres qui se vendent évidemment beaucoup mieux que d'autres, des titres qui s'appellent Les Francs-Maçons, Les Bâtisseurs de Cathédrales, Les Templiers, mais on a toujours un peu les mêmes titres de type de titres qui trouvent leur public. Alors, ces données chiffrées là, fournies par les archives du Seuil, pourquoi elles sont aussi... on en trouve énormément, parce que il y a plusieurs études internes au Seuil qui sont menées à ce moment-là. Là, on est au milieu des années 60, et Paul Flamand, qui dirige les éditions du Seuil, engage de nouveaux éditeurs ou fait travailler ses collaborateurs pour dire où en est-on de telle et telle collection, etc. Donc là, on voit bien là aussi cette dimension d'expérimentation, de bouillonnement. Enfin, on peut prendre toutes les métaphores que l'on veut. Alors, ça explique une note de la fin de 1969 de Michel Vinocq, qui vient d'arriver au Seuil et qui sera un des promoteurs, qui portera le projet de l'histoire de la France rurale, où il dit « L'important est de relancer le plus tôt possible une collection qui s'est endormie sur ses lauriers. » Et il relève que la collection, qui comprend trois subdivisions, les groupes sociaux, les civilisations, les biographies, il dit « On peut, il faut maintenir cette subdivision, il n'y a aucune raison de fermer une de ces sections, là, ou de la mettre en sommeil. » Mais par contre, il formule des propositions complémentaires. Et trois qui sont importantes ici. D'une part, il dit qu'il faudrait penser à une subdivision au sein de cette collection d'histoire du Seuil, le temps qui court, d'une histoire économique et démographique. Et il va donner des pistes, la révolution industrielle, l'histoire du mariage, l'histoire de la mortalité, l'histoire de la criminalité en France. Première proposition qu'il fait. Deuxième proposition, il dit à l'intérieur de la collection, on peut envisager des séries closes, un grand sujet traité en un nombre de volumes limité avec précision, dont les caractéristiques peuvent être quelque peu originales par rapport aux autres ouvrages. Donc, on fait une collection à l'intérieur de laquelle on va pouvoir, pour traiter un sujet particulier, en plusieurs volumes, lui donner une forme différente. Une forme différente, c'est-à-dire une présentation matérielle différente, éventuellement un prix différent, etc. Alors là, évidemment, on a déjà des premiers jalons. Et troisième proposition qu'il formule, c'est que d'ores et déjà, on peut lancer une série close, une histoire de la France contemporaine. Et Vinocq va énumérer un plan en 17 volumes, donner un plan en 17 volumes, et on a déjà les grandes lignes de ce qui va devenir, mais évidemment dans une autre collection qui est encore à naître, la nouvelle histoire de la France contemporaine au Seuil. Donc là, 1969, on est déjà dans l'élaboration de cette nouvelle histoire de la France contemporaine. L'important ici, c'est pas évidemment là, le lien avec l'histoire de la France rurale peut paraître peu évident, sauf que on est déjà dans la problématique de et si le Seuil se lançait dans une publication en plusieurs volumes d'une histoire nationale. Alors, la deuxième matrice, justement, de cette histoire, ou le deuxième lieu qui va servir d'élaboration au projet de l'histoire de la France rurale, c'est une autre collection qui s'appelle « Politique ». Alors, ça part d'un projet, là, du deuxième larron, qui est Jacques Julliard, dont on peut relever au passage que le profil est très comparable à celui de Michel Vinocq. c'est-à-dire historiens universitaires tous les deux, historiens spécialistes du politique et historiens très marqués personnellement par la lecture ou la collaboration à la revue Esprit et donc au personnalisme d'Emmanuel Mounier. Julliard, lui, envoie une note à Paul Flamand à fin 1965, note qui s'appelle projet d'une collection politique de poche aux éditions du Seuil, note liminaire. Et ce qui est intéressant, c'est que, bon, là encore, l'histoire de la France rurale, que viendrait-elle faire ici, la définition que donne du politique Julliard est d'emblée très large. Il dit, le politique, c'est tout ce qui met en jeu le pouvoir. Et donc le propos ne sera pas centré sur les questions de gouvernement, d'État ou de doctrine politique. Et Julliard note qu'il faudrait penser à étudier sous l'angle politique des problèmes contemporains comme la banque, la sécurité sociale, etc. Et dans ces interventions, donc là on est fin 1965, et dans les mois qui suivent, on voit très bien comment Julliard, à l'intérieur des éditions du Seuil, suit cette piste de l'élargissement des perspectives, l'élargissement historique. Dès février 1966, il transmet à Paul Flamand une liste de publications possibles pour le mois de novembre, liste dans laquelle figure l'ouvrage de Gaston Roupnel, Histoire de la campagne française, alors qui date de 1932, hein, un vieil ouvrage, mais il s'agit évidemment là d'une réédition. Alors je dis tout de suite que ça n'aboutira évidemment pas, puisqu'il y aura bien une réédition du Roupnel là, elle aura lieu chez Plon, la collection Terre humaine là, et puis c'est 1973 ou 74 je crois. Flamand répond à cela, hein, le livre de Roupnel qui est excitant est-il sérieux? Ne vaudrait-il pas mieux le bloc, les caractères originaux de l'histoire rurale française, ou bien de Roger Dion, l'essai sur la formation du paysage rural français, qui est court mais sec, et donc Flamand conclut, à Julliard d'en juger. Au passage, hein, le Roger Dion, qui est bien sûr géographe et éminent, lui aussi a un fond très, très important à l'IMEC. Quelques semaines après, Julliard va élaborer une liste de thèmes. Alors une première série sur des biographies et une deuxième qu'il appelle « Événements, évolutions et problèmes ». Et il mentionne 57 thèmes dont, je cite, « l'évolution de l'agriculture au 19e-20e siècle » et « l'évolution de l'économie agricole au 19e-20e siècle ». À partir de là, au début de 1970, on a une réorganisation et une dynamisation du secteur historique au Seuil, avec notamment, à partir notamment d'une note de Michel Vinocq, adressé toujours à Paul Flamand, là on est en avril 1970, et Vinocq écrit « Les manuscrits d'histoire canalisés vers le Seuil devraient se répartir en trois courants parallèles, une collection H, donc histoire, qui accueillerait des œuvres originales sur les sujets les plus variés, cette collection n'étant pas une collection de poche, l'univers historique, hein, qui là est en train d'apparaître, une collection H illustrée, qui accueillerait les ouvrages d'histoire nécessitant l'illustration, et pouvant reprendre notamment la série « Civilisation du temps qui court » et accueillir les ouvrages prévus sur les ethnies. Alors, il ajoute cette collection H illustrée n'étant pas de poche. Et enfin, une collection H poche qui accueillerait les ouvrages destinés à la publication de poche, dont les premiers seraient les volumes de l'histoire de la France contemporaine et ceux de l'histoire de la pensée européenne. Là, on a point histoire. Donc là, on voit à la fois dans les questionnements, la question de l'agriculture et de l'économie agricole qui est apparue, et d'autre part, le cadre formel, le cadre éditorial là qui est en train de se mettre en place. Une note de la direction du Seuil de juin 70 valide pour l'essentiel ces propositions, en précisant à propos de la collection H illustrée, cette collection serait composée d'ouvrages commandés répondant à des normes fixes et, si possible, constituant une série. Donc là, on voit bien le déroulement du projet. Alors, bilan, en 1970, on a incontestablement une sorte de bouillonnement d'activité au Seuil autour du secteur histoire, et ce, en référence à ce que font les autres éditeurs. Parce que ce qui est très clair dans les archives du Seuil, c'est que les éditeurs se regardent énormément. Aujourd'hui, vous interrogez un éditeur en général. Enfin, il y en a beaucoup qui disent non, non, on a un projet, etc. On est très content de la réussite de tel collègue. Or là, on voit très bien comment toute la préparation des collections, des nouveaux ouvrages, etc., se fait en disant tiens, Armand Collin a fait ça, on pourrait essayer, il paraît que Gallimard prépare telle chose, etc. Donc là, on a cet élément. Alors, ça confirme pleinement les observations des historiens du livre sur les dynamiques d'ensemble. Hein, c'est très fréquent si on décrit à telle ou telle période la dynamique de l'édition, on va dire voilà, telle collection répond à telle autre, telle initiative répond à telle autre. Ça, on le voit de l'extérieur par le jeu des publications, c'est confirmé de l'intérieur. Et ça confirme également, c'est tout à fait conforme à l'importance de l'innovation dans le secteur éditorial. Jean-Yves Mollier, qui est des très grands spécialistes de l'histoire de l'édition à l'époque contemporaine, qualifie le patronat de l'édition de patronat schumpeterien, hein, donc un développement basé sur l'exploitation systématique de l'innovation. Donc là, on est dans ce mouvement et on voit très bien que les cadres éditoriaux, qui vont être ceux de l'histoire de la France rurale, sont d'ores et déjà en construction. Hein, leur élaboration est déjà très avancée. Dernière chose, la thématique rurale, à partir plutôt de l'agriculture, intéresse précisément les éditeurs, notamment Julliard. Donc là, on peut dire que la préhistoire du livre se termine. Ça m'amène au deuxième point, l'élaboration du livre. En 1970, l'histoire de la France rurale est déjà lancée, mais avec une autre orientation. Puisque dès avril 1968, on a une note de Julliard à Paul Flamand, très courte. Ne pensez-vous pas que si l'histoire de l'agriculture prenait forme définitivement, il serait intéressant de songer parallèlement à une histoire de l'industrie, voire du commerce. Dans ce cas, on pourrait dès maintenant songer à recruter les auteurs, ils existent. Alors, cette orientation première me semble contribuer à rendre plus compréhensible le choix dans l'équipe qui va diriger, qui va piloter l'histoire de la France rurale d'Armand Vallon, puisque Armand Vallon est là en tant que membre de l'inspection générale de l'agriculture, donc il est au sommet de son corps, ce qui lui donne est censé donner une connaissance du milieu professionnel, des contacts internationaux, puisque là au départ, histoire de l'agriculture, donc une orientation qui est évidemment plus restreinte que celle de l'histoire rurale, mais histoire de l'agriculture sans cadre défini, hein, donc là, sans cadre géographique, je veux dire, précis. Il faut ajouter que Armand Vallon n'est pas un chercheur et à ma connaissance, j'ai cherché voir ce qu'il avait publié et il a publié essentiellement sur de l'histoire locale de sa région. Il est originaire de Vichy et il a travaillé notamment sur l'histoire du thermalisme. Alors là, il y a des articles dans le bulletin de la Société historique et archéologique de Vichy. Bon, ça lui donne pas une crédibilité scientifique pour un ouvrage d'histoire très 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 solide. Alors il va publier, mais après l'histoire de la France rurale, la vie quotidienne dans les villes d'eau chez Hachette, 1850-1914. D'ailleurs, dans la quatrième de couverture, il fait valoir le fait qu'il il a été un des directeurs de l'histoire de la France rurale. Alors, d'emblée, d'ailleurs, la place de Vallon pose problème. Là encore, lettre de Julliard à Paul Flamand, juillet 1972. Duby m'a donné les meilleures nouvelles du tome 1 de l'histoire de l'agriculture et des paysans, ça a déjà évolué, qui devrait être prêt pour le printemps. Il a déploré la manière cavalière dont Armand Vallon avait été traité par les auteurs du tome 4. Je peux éclairer un petit peu. Et l'allusion s'éclaire avec les contrats. Les contrats sont datés du 14 juin 1971. Et ils portent sur, je cite, « l'ouvrage provisoirement intitulé « Histoire des paysans français », œuvre en 3 tomes. » Alors, en fait, là, il n'y a pas de... Le projet a toujours été 4 tomes. Il y a une erreur. C'est corrigé. Donc, œuvre, on va dire en 4 tomes, établie sous la direction de messieurs Duby, Juillard, Leroy-Ladurie et Vallon. Donc, l'architecture de départ, « Histoire des paysans français », 4 tomes, 4 directeurs. Duby pour le tome 1, Leroy-Ladurie pour le 2, Juillard pour le 3 et normalement Vallon pour le 4. C'est un petit peu plus compliqué que ça puisque dès la signature des contrats, le tome 4 est à part, on inclut un deuxième directeur de ce tome qui est Henri Mandras. Donc Henri Mandras, je ne vais pas vous présenter ici, hein, et la publication de la fin des paysans est récente, hein, c'est 1967. Et d'où le dernier article du contrat qui partage les honoraires pour la responsabilité du tome entre Mandras et Vallon. Bon. Trois semaines plus tard, en renvoyant le contrat signé, Mandras écrit à Flamand: « Nous venons de mettre au point avec M. Vallon le plan du tome 4 et de nous assurer la collaboration d'un économiste, Michel Gervais, et d'un sociologue, Marcel Jolivet. M. Vallon vous adressera ce plan et les adresses de ces deux auteurs que vous puissiez leur faire établir un contrat. » Alors, les deux auteurs, hein, de Bumkif Tavernier, là, qui va compléter l'équipe, sont des proches de Mandras. On peut remarquer aussi que Gervais est déjà un auteur au seuil. Il a coécrit avec deux autres auteurs Une France sans paysans en 1965, donc au seuil. Et il a contribué aussi, mais là, c'est un ouvrage collectif de petite dimension, qui s'appelle Projet pour la France en 1968. Alors, moins d'un an plus tard, Mandras se retire de l'entreprise. Pour des raisons qui sont pas explicites, hein, dans la correspondance éditoriale, on a des mentions où Mandras dit: j'ai expliqué mes raisons à Monsieur Duby et à Monsieur Vallon, et ils m'ont très bien compris. Sauf que voilà, ça ne veut pas plus loin. Alors, par contre, ce qui se passe aussitôt, c'est que les trois auteurs du tome 4 récusent la direction de Vallon. C'est pour ça que Julliard dit traité de manière cavalière, il est débarqué assez sèchement, hein, de l'entreprise. D'où l'ajustement qui doit être fait. Julliard, toujours écrit à Paul Flamand en juin 72, la solution à laquelle j'arrive est la suivante. L'ensemble de l'entreprise sera placé sous la direction de messieurs Georges Duby et Armand Vallon. On les fait monter d'échelon, en quelque sorte. Et ce dernier renonce à apparaître explicitement comme directeur du tome 4. Et après, il y a tout un arbitrage pour répartir les droits de direction du tome 4. On demande à Mandras va restituer une partie de la valoir qu'on lui avait versée, une petite partie. Enfin, alors, il y a toute une discussion un peu de... je ne dis pas de marchand de tapis, mais enfin bon, c'est pas très loin de ça. Ensuite, on coupe ses droits, la moitié pour Vallon, donc c'est sa rémunération de directeur de l'ensemble, et un sixième pour chacun des trois auteurs qui sont considérés comme co-directeurs du tome 4. Voilà. Alors, Julliard ajoute, en juillet 72, donc quelques semaines après, Vallon rédigera avec Duby la préface générale. Je ne pense pas que Leroy, Ladurie et Juillard s'offusqueront de voir l'ensemble de l'œuvre placée sous la direction des deux premiers. Donc là, on voit l'embarras de la direction du seuil, hein, qui dit. Mais bon, finalement, l'attelage va tenir. Hein. Alors, cette solution retenue, finalement, apparaît comme une bonne solution. Parce que ça permet d'afficher une double garantie, finalement. Une garantie historienne avec Duby, professeur au Collège de France depuis 1970, et une garantie aussi plus technicienne avec Vallon. Et la promotion de l'ouvrage va se faire sans cesse en appuyant sur cette idée-là d'une co-direction. Alors, il faut insister sur le fait que, parce qu'on peut se poser la question, pourquoi parmi les historiens, plutôt Duby que Leroy Ladurie, que l'on fait monter en quelque sorte comme directeur de l'ensemble, parce que Duby reste directeur du tome 1, bien sûr. Alors, le Collège de France joue, sans doute, mais il faut aussi souligner l'orientation ruraliste de départ de Duby, qui est très forte, hein, là, que l'on voit, notamment, il fait partie de l'équipe fondatrice d'études rurales, le fait aussi qu'il a publié en 1962 chez Aubier l'économie rurale et la vie des campagnes dans l'Occident médiéval, et qui a eu un écho important. Alors, écho, je voudrais préciser un petit peu ce point-là. Et là, je vais m'appuyer sur le dossier de presse qui est dans les archives Aubier-Montaigne, là, à l'IMEC. Il y a un dossier de presse très, très complet. Et qu'est-ce que l'on voit comme revues qui rendent compte de l'économie rurale et la vie des campagnes? D'une part, des revues scientifiques françaises et étrangères, très élogieuses. L'exemple type, c'est dans la revue historique, Robert Boutruche commence en disant... il part de Marc Bloch et puis il termine en disant c'est un ouvrage digne des caractères. Donc évidemment pour Duby ça devait être c'était du miel, hein. Et puis également pas seulement donc ces revues savantes françaises et étrangères, notamment des revues allemandes, mais là j'ai pas beaucoup de repères sur les revues ruralistes allemandes, des revues généralistes économie et humanisme où là encore il est rappelé à Marc Bloch. Alors là on a la filière chrétienne de gauche, enfin si on peut dire, qui est très forte aussi au seuil, donc c'est un peu c'est pas très, enfin il y a une cohérence du milieu. Donc économie humanisme, les nouvelles littéraires, et puis également des comptes rendus dans les revues professionnelles agricoles, la revue internationale des industries agricoles dès 1962, une revue qui s'appelle, une publication qui s'appelle Documentation Agriculture, qui est une, semble-t-il, une publication des chambres d'agriculture en 1963. Donc à chaque fois, alors c'est des courts comptes rendus, mais on signale cet ouvrage qui, si vous avez parcouru ou travaillé sur l'économie rurale et la vie des campagnes dans l'Occident médiéval, c'est tout sauf un ouvrage facile d'accès. Hein. C'est un ouvrage très savant, très érudit, etc. Bien. Il faut ajouter à cela que, autre atout de Duby, c'est qu'il a dirigé en 1970 l'histoire de la France chez Larousse. Or, l'histoire de la France chez Larousse, qu'est-ce qu'on a comme caractéristique d'un point de vue éditorial ? De nombreux collaborateurs, donc il faut savoir conduire un attelage, et c'est pas forcément facile. Trois gros volumes chers, bon là on en aura quatre, mais et puis un succès de librairie tout à fait important. Hein, l'initiative de Larousse, là, d'ailleurs, va surprendre le milieu éditorial, hein, parce que la réussite surprend. Des atouts par rapport à son parcours intellectuel, à sa situation institutionnelle et aussi par rapport à sa position éditoriale. Reste la réalisation concrète du livre. Comment on va passer, une fois que l'attelage est constitué, etc., à ça, c'est-à-dire cette histoire de la France rurale, des éléments sur la présentation matérielle et notamment la mise en page. Donc là, une première page sur... une des pages, là, c'est une page du tome 3, donc sur les débuts de l'exode rural, bon, pas de problème. Page suivante, là, c'est plus l'histoire de la France rurale. C'est le nouveau cours de navigation des Glénans, 1972. Alors, ce qui m'a frappé, mais c'est un phénomène très courant dans le domaine de l'édition, c'est que c'est le réemploi d'un modèle de présentation, d'un cadre graphique, etc. Alors, on peut s'abuser à voir les différences, mais il y a quand même des ressemblances très très nettes. Alors, là, si on entre un tout petit peu dans les détails, donc la même chose, alors une autre page pour la montrer comment on intègre un document de grande taille dans une page normale avec ses marges très larges, avec donc le commentaire, enfin ou une brève présentation, c'est pas la légende exactement, mais une brève présentation de la carte ici avec une écriture, enfin une encre dans les ocre, enfin rouge, oui, dans le ocre à peu près. Ici, là encore, le nouveau cours de navigation des Glénans, même chose, où on fait presque la même présentation pour les rappels des chapitres, etc. Et quand vous avez une petite vignette, alors là j'ai fait exprès de prendre cette ferme lorraine attaquée par les loups, évidemment. Une coque se remarque, un nageur non. Mais on a vraiment le même type de. On a un train. Alors ce réemploi d'un modèle a plusieurs significations. D'abord, il permet, comme le prévoyait Vinoc puis Flamand là au début des années 1970, de s'écarter de la présentation de la collection L'Univers historique. L'appartenance à la collection L'Univers historique est rappelée notamment sur la jaquette, mais en même temps on a une présentation matérielle sensiblement différente. On singularise cette série au sein de la collection. Et en même temps, on inscrit le livre dans un système formel particulier qui est la marque de l'éditeur. Hein. Et là, ça permet de souligner l'importance du métier dans le dispositif éditorial, dans un milieu où les dimensions symboliques sont évidemment très fortes. Ça m'amène à rappeler les remarques de... Je m'inscris tout à fait dans les remarques de Roger Chartier sur l'importance des dispositifs formels dans les types de lecture le fait qu'ils constituent une anticipation d'une réception et de l'usage d'un livre. Donc là, aussi, tout ce que je disais au départ, le livre n'est pas un texte et il faut prendre une distance avec la lecture en termes de seulement le texte, c'est tout à fait confirmé. Alors, troisième point, un succès éditorial. Alors ici, je vais partir du tableau. Alors là, on commence en 1983, parce que les données sont fragmentaires avant 1983. Là, le tableau est tiré du fonds Georges Duby, pour l'essentiel, et les séries sont parfaitement complète, hein, enfin, je veux dire très régulière, parce que c'est sur les relevés de droits d'auteur, on indique combien il y a d'ouvrages vendus chaque année, donc seulement à partir de 1983. Alors, on pourrait reconstituer un tableau plus complet avec d'autres relevés, mais je me suis un peu pris les pieds dans mes relevés. Je croyais avoir déjà certains chiffres, et puis je les ai pour relevés. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, qu'est-ce que l'on peut voir à partir ce tableau. Alors, première chose, on peut faire une petite estimation du niveau des ventes sur les 10 premières années. Et là, niveau des ventes, ça va de 6500 par an pour le tome 1 à 5700 pour le tome 3. Donc, niveau, on peut parler d'un succès incontestable puisque par rapport au point de comparaison qu'on avait auparavant, notamment la série Le Temps qui court, là je vous avais dit, entre 3500 et 1700 exemplaires vendus, ici on en vend 4 ou 5 fois plus d'une série qui est évidemment beaucoup plus coûteuse et beaucoup plus profitable pour l'éditeur. La visibilité sociale aussi de l'ouvrage dépend en partie de sa présentation matérielle. Et là aussi, c'est une réussite de ce point de vue-là pour l'éditeur. On voit aussi que le fléchissement des ventes est très progressif. Hein. Si on se situe en l'an 10, là, 1985, on en est encore pour le tome 1 à 1300 et quelques exemplaires vendus dans l'année. Donc, le niveau des ventes reste très satisfaisant. Dernière observation qu'on peut faire à partir du tableau, c'est la grande homogénéité de la diffusion des quatre tomes. Il n'y a pas de gros écarts entre les quatre. Hein. Celui qui se vend le moins bien, si on prend, on se place à N plus 10, c'est le tome 3, qui vient légèrement derrière le tome 4, mais je vous ai dit, les écarts ne sont pas très considérables. Ce qui se vend le mieux, c'est le Moyen-Âge, mais là, bon, je reviendrai là-dessus. Le Moyen-Âge, ça se vend toujours mieux. Enfin, j'exagère un petit peu, mais... alors, ça explique la suite des péripéties internes. Dès le printemps 78, une édition de poche est envisagée. En février 1981, Marcel Jolivet écrit à Vinoc, en lui donnant d'ailleurs du monsieur le directeur et cher collègue, ils sont universitaires tous les deux, et pour s'inquiéter du retard. Et il écrit « L'inévitable vieillissement du manuscrit et le fait que les étudiants attendent en vain l'apparition de cette édition qui serait à leur portée et que nous leur annonçons périodiquement. » Alors, pourquoi le seuil ne répond pas à ce type d'injonction? Ben, tout simplement parce qu'il continue à vendre de l'édition reliée. Il n'a aucun intérêt à se faire concurrence, en quelque sorte. Et donc, il faut attendre octobre 1992 pour lancer une édition de poche. Édition de poche sous deux formes. Volumes séparés d'un côté et un coffret cadeau de l'autre. Alors, je vous ai là aussi reproduit. Alors, ça, c'est simplement pour montrer le travail de l'éditeur. Il est à la fois de montrer un produit nouveau et en même temps de l'inscrire dans une continuité. Alors là, la continuité, elle passe à la fois par le fait qu'il va l'inscrire dans une collection qui est Point Histoire, d'où la fenêtre ronde, là, avec le cercle qui est considéré comme, ça va très bien avec le, on le voit aussi dans c'est rappelé dans les archives du Seuil, il y a une dimension, une espèce de figure structuraliste, en quelque sorte, hein, puisque là, c'est la fin des années 60, les historiens sont très, très intéressés par le paradigme structuraliste. Donc, l'inscription dans le cercle de présentation, et en même temps, les points histoire, la couleur, etc. Tout ça, ça va avec la collection. Et en même temps, on reprend, évidemment, la photographie de la jaquette. Alors, le coffret lui-même, bah, même chose, hein, on rappelle la collection, et en même temps, on va reprendre la photographie. Alors, du tome 3, pour des raisons qui paraissent à peu près évidentes, c'est la seule photographie où il y a des paysans, hein, puisque les autres... ici, on aperçoit un paysan sur son tracteur dans le tome 4, mais bon, c'est moins parlant. Et puis, il y a moins la dimension de profondeur historique, etc., que l'on peut trouver sur une photographie comme celle-ci. Alors, la réussite du lancement de l'édition reliée, il faut souligner l'importance du dispositif de lancement. L'ouvrage, d'abord, ce qui est très classique pour un ouvrage cher, est d'abord offert en souscription. Il est donc lancé et publié à la mi-octobre 1975 et dès septembre envoie aux libraires d'une part d'exemplaires de démonstration pour les souscripteurs potentiels et puis d'une banderole à coller en vitrine annonçant le lancement de l'histoire de la France rurale. Organisation d'une réception par les éditions du Seuil à la Maison de l'Amérique latine, les Boucquartier, hein, le 16 octobre. Impression également de deux dépliants publicitaires, un grand modèle et une formule abrégée. Et il y a dans les archives des exemplaires de la formule abrégée qui sont conservés. Et cette formule abrégée est tirée à 45 000 exemplaires. Et ce dépliant est intéressant à un double titre. D'une part, par le circuit qu'il emprunte, parce que ce dépliant abrégé est destiné à la librairie de la Maison Rustique. Alors, ça tombe bien parce que c'est juste en face du siège des éditions du Seuil, rue Jacob, hein. Maison Rustique, donc, qui est la librairie de l'Académie d'agriculture et qui se présente comme la plus ancienne librairie agricole, horticole, forestière et ménagère. Donc, ce dépliant est donné à la Maison Rustique qui doit l'envoyer à ses clients, hein. Donc là, on retrouve cette prise en compte de circuits professionnels. Et là encore, il y a une relative cohérence avec le choix d'Henri Vallon, d'Armand Vallon, pardon, c'est pas le même, à la tête du livre, enfin, à la direction de l'ouvrage. Et puis, c'est intéressant également par le choix de mise en valeur du livre. En effet, les archives montrent les différentes étapes des projets de promotion. Et il y a des suppressions significatives. Dans le premier projet, on a un paragraphe qui se terminait par « En un mot, une entreprise majeure d'histoire sociale, une œuvre de synthèse qui rassemble les techniques les plus récentes et repose sur un travail scientifique de première main. » La fin de la phrase est coupée. Donc ça s'arrête « En un mot, une entreprise majeure d'histoire sociale, point », dans le dépliant, dans la version définitive. Et la partie suivante, même chose, il y a une coupure, ce qui me paraît significative. « Conçue selon l'esprit de l'école française des annales, cette histoire de la France rurale est l'héritière directe des travaux entrepris par Marc Bloch. » Ça, c'est la première idée promotionnelle. Ça disparaît. Alors, dans les deux cas, qu'est-ce qui est évacué? C'est, disons, il y a un refus, en tout cas, d'accentuer la dimension de positionnement et de valorisation scientifique. Qu'est-ce qui reste avant tout? La dimension patrimoniale. Le dépliant, en effet, anticipe deux catégories de lecteurs, qu'il appelle les passionnés d'histoire et les amoureux de leur région. Et l'argumentaire publicitaire se termine de la façon suivante. Tous savent, ces passionnés d'histoire et ces amoureux de leur région, que la forme d'un champ, le tracé d'un chemin, l'implantation d'un village, le développement d'un artisanat local ne sont pas le fait d'un hasard, mais le fruit de 4000 ans de complicité entre la nature et l'homme. Il y a un côté presque... La France, en l'occurrence la France rurale, vient du fond des âges, etc. Enfin, c'est très quasi gaulien. Bon. Alors... Est-ce que cette présentation correspond à une attente? Ce que j'ai dit, l'éditeur va anticiper une audience. Est-ce que ça marche? Alors, il y a quand même un élément de réponse là-dedans. À partir de la comparaison, le deuxième tableau, là, c'est l'histoire de la France urbaine. Comparaison intéressante parce que il y a une double différence. La différence, c'est que d'une part, la diffusion est plus faible. Et puis d'autre part, c'est une diffusion hétérogène cette fois. Autant les quatre tomes du Journal de France rurale se vendent à peu près au même, dans les volumes de vente sont très comparables, alors que là, on voit nettement que l'histoire, les périodes anciennes se vendent mieux et que notamment la ville aujourd'hui se vend beaucoup moins bien. C'est avant tout le Moyen Âge, la ville médiévale. Surtout si on fait des totaux cumulés, qui se vend le mieux. Alors là, ça renvoie, c'est une question bien connue, hein, mais il y a eu multiples travaux sur les représentations du Moyen-Âge, je pense notamment aux travaux de Christian Amalvi en 1996, un livre qui s'appelle « Le goût du Moyen-Âge », et Amalvi montre très clairement qu'on a une période qui est une sorte de période de surinvestissement affectif, passionnel, etc., tant du point de vue des clivages, on s'écharpe depuis le 19e siècle autour du Moyen-Âge, période bénie pour certains, obscurantiste et affreuse pour d'autres, et en même temps, c'est une période privilégiée pour tout ce qui est célébration nationale. En quelque sorte, le Moyen-Âge, c'est l'histoire à elle seule, enfin, c'est la période qui évoque le mieux la profondeur de l'histoire. Et dans ce cas, On le retrouve pour l'histoire de la France urbaine. Ça ne joue pas dans le cas de la France rurale, sans doute parce que le pari sur les 4000 ans de complicité, etc., il est gagné par l'éditeur d'une certaine façon. C'est-à-dire que beaucoup de lecteurs vont considérer que la profondeur de l'histoire, c'est la totalité de ce monde rural qui est effacé, disparu ou en voie de disparition. C'est peut-être sans doute aussi facilité par les titres, hein, le tome 4 qui s'appelle « La fin de la France paysanne », etc. Alors, dernier point, l'empreinte du livre sur la réception. La réception savante, en gros, est connue, favorable, même si toutes les revues historiques de premier plan n'en parlent pas. Hein, rien dans les annales, par exemple, mais bon, c'est pas très surprenant, enfin, il y a une bonne raison. Par contre, très bons échos dans l'étude rurale, est tout à fait favorable. On peut noter simplement au niveau de la réception savante que elle est assez large, c'est-à-dire que, par exemple, la revue d'histoire des sciences, qui n'est pas du tout une revue, qui est une revue plutôt de philosophes, hein, va donner deux pages de compte-rendu, très descriptif et globalement favorable, hein, à l'ouvrage. Compte-rendu très favorable aussi au niveau international, hein, simplement juste un exemple, hein, Weber en 1977 dans The American Historical Review qui donne un compte-rendu très favorable. Alors, je passe rapidement sur cette réception savante, dans la mesure où elle ne joue aucun rôle dans le succès public. Alors, c'est des revues avec un lectorat très spécialisé et limité, et puis c'est des comptes rendus qui viennent après le succès. Bon. Par contre, ce n'est pas le cas de la presse généraliste. Les éditions du Seuil elles-mêmes diffusent une revue interne, enfin une revue interne pas exactement, c'est une revue qui est destinée au personnel du Seuil, mais pas principalement, elle est destinée aux lecteurs par le biais des libraires. Bon. Et cette revue, il y a beaucoup d'éditeurs qui font ça, hein. Cette revue s'appelle le 27 rue Jacob, c'est l'adresse de l'éditeur, avec un niveau de diffusion important, hein, là au début des années 70 on en est à 100 000 exemplaires environ, c'est un mensuel. En fait, c'est pas vraiment un mensuel, il y a 9 ou 10 numéros par an, si on a pour l'été, etc. Bon. Cette revue, là, le 27 rue Jacob, cite toute une série de commentaires dithyrambiques dans toutes sortes de supports de presse, Le Monde, Le Quotidien de Paris, L'Express, Le Point, Le Nouvel Observateur, Le Figaro et même Paris-Normandie, qui rivalisent de commentaires favorables, monuments de science, d'intelligence et de sympathie humaine, etc. Enfin, bref. Alors, ce qui est une sorte de phénomène d'inflation des éloges, alors qui est courant, hein, mais c'est significatif, me semble-t-il, qui s'exerce sur cet ouvrage, à la fois qui a des ambitions savantes et scientifiques affichées, et qui en même temps est une espèce de massif impressionnant. Voilà pour un premier aspect de ce que j'appelle l'empreinte du livre. Deuxième empreinte, au niveau du parcours des auteurs, est-ce que le fait d'avoir participé, on peut s'interroger là-dessus, à cette entreprise réussie qui est l'histoire de la France rurale, a modifié, infléchi le parcours des auteurs? Alors, il faudrait mener une étude très systématique, mais si je m'en tiendrai à trois exemples. Le premier, c'est celui de Gabriel Désert. Quel est le rôle de sa contribution dans son parcours scientifique? La réponse paraît évidente, c'est rien. Enfin, je veux dire, ça ne joue aucun rôle. C'est-à-dire que, si on regarde sa bibliographie, avant 1976, sur quoi travaille Gabriel Désert? Évidemment, il y a sa thèse sur les paysans du Calvados, mais il est avant tout un spécialiste d'histoire régionale, avec très peu de contributions à des études à l'échelle nationale. J'en ai relevé qu'une, hein, une contribution à cette enquête d'histoire économique de 1971 sur le bâtiment, mais c'est très réduit dans une biographie qui est très, très étoffée, évidemment. Après 1976, après la parution de cette histoire de la France rurale, il continue dans la même veine, et pas spécifiquement en histoire rurale. Gabriel Désert publie sur la politique, l'alphabétisation, la démographie, l'histoire urbaine, hein, une participation importante à l'histoire de Caen chez Privat en 1981, et il publie, sous son nom propre, La Révolution française en Normandie, Privat, 1989. Il me semble que là, en quelque sorte, c'est comme si le pôle éditorial n'attirait pas vraiment, n'infléchissait pas la trajectoire intellectuelle de Gabriel Désert. Et il me semble ici que ça peut s'expliquer par le fait qu'il y a un très fort ancrage institutionnel, l'université, le centre de recherche en histoire quantitative dont il a été directeur, d'un côté, et puis d'autre part, il y a un domaine de maîtrise particulier de Gabriel Désert, qui est sa maîtrise tout à fait impressionnante du corpus d'archives, des archives départementales et notamment des archives départementales du Calvados. Donc voilà pour Désert. Agulon, maintenant. Alors, Maurice Agulon, pas de rôle évident dans sa trajectoire intellectuelle. Avant de travailler sur, de contribuer à cette histoire de la France rurale, que faisait Maurice Agulon? Il faisait de l'histoire culturelle du politique. Il en fait plus que jamais après. Enfin, je veux dire, là, il n'y a pas d'inflexion. Par contre, on peut relever sans doute une inflexion dans son parcours éditorial. C'est-à-dire qu'il va diriger en 1983 le tome 4 de l'histoire de la France urbaine au seuil. Donc là, on est dans la même lignée. Et il participe à une autre grande entreprise éditoriale collective d'histoire nationale avec volume 5 de l'histoire de France. Une autre histoire de France, donc, mais cette fois celle d'Hachette, Histoire de France illustrée en 1990. Donc il publie là, le tome qui s'appelle, enfin il rédige le tome qui s'appelle La République de 1982. Dernier, donc là, un fléchissement, mais pas dans le domaine intellectuel. Dernier cas, Georges Duby, là aussi, alors là, un fléchissement sensible, mais toujours dans le même domaine. C'est le statut de Duby vis-à-vis du monde éditorial qui se transforme, ou en tout cas, la trajectoire là est légèrement modifié. En effet, il est appelé à diriger l'histoire de la France urbaine qui paraît dès 1980 jusqu'à 1985. Ça, c'est bien connu. Mais il me semble que c'est doublement significatif pour deux raisons. La première, c'est que Duby n'est pas du tout un spécialiste d'histoire urbaine. Et Le Seuil avait un grand spécialiste renommé d'histoire urbaine sous la main qui était Jacques Le Goff. Et de façon significative, d'ailleurs, après le décès de Duby en 1996, lorsqu'il y a une édition de poche refondue, elle passe sous la direction de Jacques Le Goff. Donc là, Le Seuil cherche à maintenir un partenariat, là, c'est très net, en lui proposant de diriger cette histoire de la France urbaine. Et d'ailleurs, dans les échanges de correspondance, on voit que Duby n'est pas très enthousiasmé par cette direction. Le autre élément très significatif, cette direction de l'histoire de la France urbaine permet une entreprise nouvelle, cette fois qui enthousiasme Duby, c'est l'histoire de la vie privée. Alors, l'histoire de la vie privée qui est lancée très tôt, avant même la parution du premier tome de l'histoire de la France urbaine. Janvier 1979, lettre de Vinocq à la direction du Seuil. Jacques Julliard et moi avons déjeuné aujourd'hui avec Philippe Ariès et Georges Duby. Ceux-ci nous ont confirmé leur accord pour diriger ensemble une suite de livres d'histoire sur la vie privée. L'idée initiale était d'en borner l'horizon au territoire français, mais au fur et à mesure de la conversation, il est apparu que cette limitation présentait plus d'inconvénients que d'avantages. Finalement, ce serait une histoire de la vie privée en Europe occidentale qui paraîtrait la meilleure solution. Alors ici, on voit la précocité de l'entreprise, mais on voit aussi la volonté initiale de l'éditeur de suivre un genre. On est bien dans cette logique de construction de série. On a fait successivement deux histoires nationales thématiques, rurale, urbaine, ben on va continuer une histoire de la vie privée en France. Sauf qu'évidemment, là, intellectuellement, ça ne tient pas bien. Donc, on va élargir, quitte à y revenir à cette idée d'histoire des décennies suivantes, d'histoire nationale thématique avec l'histoire de la France religieuse. Mais là, c'est une autre équipe, hein, puisque c'est René Raymond et Jacques Le Goff qui vont la prendre en main. Dernier élément significatif de l'impact de cette direction de l'histoire de la France rurale sur la situation dans le monde éditorial de Duby, c'est que Le Seuil tient à régulariser la situation de Duby en tant que directeur de l'entreprise. Au moment où il prend, quand le contrat est signé pour l'histoire de la France urbaine, on lui dit en tant que directeur de l'ensemble, vous aurez vous aurez telle condition, telle avaloir, etc. J'ai plus les chiffres en tête. Et à ce moment-là, on lui envoie aussi une lettre en lui disant « D'ailleurs, vous n'avez rien eu en tant que directeur de l'ensemble de l'histoire de la France rurale. Vous n'avez été rémunéré que pour la direction du premier tome. Et donc, on va régler tout ça et on envoie un chèque à Duby en lui disant « Voilà, on reprend, on aligne les deux contrats, celui de l'histoire de la France rurale sur le nouveau, celui de l'histoire de la France urbaine ». Manifestation concrète, on peut parler du prix de la collaboration de Duby suite au succès de l'histoire de la France rurale. Alors, si on élargit encore dans le domaine de l'édition d'histoire, la réussite de l'histoire de la France rurale, qui passait par une articulation entre une collection relativement bon marché, enfin relativement bon marché, qui n'est pas une collection de poche, mais une collection de type classique qui était l'univers historique, avec une collection, une sous-collection en quelque sorte qui était l'univers historique illustré, cette formule fait école. Et on le voit notamment dans la façon dont Nora reprend, qui a été lancée avec succès avant la Bibliothèque des Histoires, avec des présupposés éditoriaux tout à fait différents, mais Nora, devenue très proche de Duby, va lancer lui aussi sa bibliothèque illustrée des histoires, évidemment en faisant passer d'abord les lieux de mémoire dans ce cadre. Donc là, il y a bien une empreinte profonde. Alors, conclusion. J'ai conscience d'avoir débordé, d'abord. J'ai conscience surtout d'avoir privilégié une approche un peu internaliste, hein, à partir de ces archives éditoriales. Mais l'intérêt, me semble-t-il, c'était de faire émerger des logiques particulières à un milieu. Milieu et logiques qui sont installées depuis longtemps, au moins depuis le début du XIXe siècle, avec ce mélange chez les éditeurs d'impératifs divers, financiers évidemment, mais également symboliques, et également une espèce d'impératif d'innovation. Et là, on le retrouve très bien, ces trois dimensions, dans l'histoire de la France rurale. Il reste à souligner que, bien évidemment, la construction de ce que j'ai appelé un ouvrage de référence procède d'autres logiques. Il faudrait aussi intégrer, pour en rendre compte complètement, des logiques, on pourrait dire, du domaine de la sociologie, hein, la question du lectorat étudiant, des circuits de valorisation du livre, du statut social du livre d'histoire, etc. Des logiques symboliques, là j'ai un peu touché avec les questions du patrimoine et de la mémoire nationale, et enfin des logiques intellectuelles et scientifiques. L'histoire de la France rurale se situe au débouché de grandes thèses régionales d'histoire rurale, du Languedoc au Calvados, en passant par le Cambrésis et l'Île-de-France. Mais là, évidemment, je sors de mon domaine pour revenir dans celui des ruralistes qui ont eu l'amabilité de m'accueillir.